Bonjour et bienvenue dans Cap Sport. C'est un fléau qui touche le monde du sport. Les blessures au cerveau dans notre région, on en a souvent écho avec les commotions en hockey sur glace. Ces derniers temps, nos équipes régionales n'ont pas été épargnées. Robbie Earle au HC Bienne, Bastien Pouilly au HC Ajoie ou encore Philippe Alström au HC La Chaux-de-Fonds. Mais c'est dans le rugby que les blessures au cerveau ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Plusieurs joueurs de différents niveaux sont décédés en France après des chocs violents. Si on en parle souvent, nous avons voulu connaître ce qui se cache réellement derrière la commotion ou les autres traumatismes crânio-cérébraux. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui dans les conditions du direct avec le neurologue Pierre Combremont, médecin-chef à l'hôpital du Jura. Docteur Combremont, bonjour.
Bonjour.
On parle donc aujourd'hui de commotion dans notre émission sportive avec l'exemple du hockey sur glace d'une part, du rugby d'autre part. Dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on pourrait définir une commotion cérébrale ?
Un choc qui, pendant une durée variable, altère le fonctionnement normal du cerveau sans qu'il y ait un dommage structurel. La structure du cerveau est intègre, mais il ne fonctionne transitoirement plus normalement.
C'est là également qu'on peut différencier justement les commotions cérébrales, desquelles certains hockeyeurs se remettent globalement assez rapidement, aux différents cas mortels qui se sont avérés dans le rugby français notamment.
Oui, alors c'est vrai qu'on part du principe qu'un traumatisme crânien cérébral pour être mortel, c'est quelque chose où il y a des dommages dans la structure du cerveau. C'est généralement sous la forme d'hémorragie, d'hématomes dus au choc, qui endommagent donc vraiment la structure même du cerveau, pas seulement son fonctionnement, mais la structure même du cerveau. Et ça, effectivement, ça peut être dangereux et mortel, mais c'est en principe un degré supérieur de gravité du traumatisme.
Si on en revient maintenant à la commotion, en lisant certains témoignages de sportifs, on remarque qu'ils ont pu terminer leur match, leur entraînement, après un choc à la tête, puis ils ont été pris de maux, de différents vomissements, vertiges également. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
En principe, la commotion donne des symptômes assez immédiats, mais peut-être dans le cadre de l'activité sportive, est-ce que galvanisé par le stress positif de la compétition, on arrive à compenser les problèmes? Ça, c'est la façon qui me semble la plus probable d'expliquer ce cours des événements. Mais généralement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est médicalement assez inquiet par quelqu'un qui a un traumatisme qui touche le crâne. Alors, on ne va pas encore dire s'il y a une lésion du cerveau ou non, mais un traumatisme qui touche le crâne avec une évolution comme ça en deux temps, c'est généralement un signe de gravité. Avec quelqu'un qui pendant un certain temps va bien, a l'impression, bon, sur le moment même du traumatisme, est peut-être un peu perturbé, mais ensuite a l'impression d'aller mieux. Et puis ensuite, dans un second temps, après une latence qui peut être d'une heure ou des fois même un petit peu plus, s'aggrave à nouveau. Ça, c'est généralement des signes considérés comme très inquiétants.
Si on revient à la commotion, sans complication pour ainsi dire, mais une commotion entre guillemets normale, est-ce qu'on peut voir dans le hockey sur glace, dans le rugby également, qui laisse au repos des joueurs pendant plusieurs semaines, quelles sont les conséquences directes d'un tel choc ?
Disons, le principe de la commotion, c'est qu'on s'en remet, on a une restitution intégrale à terme. Alors la durée, ça peut effectivement être très variable. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines. Mais en général, à l'horizon, on va dire de l'ordre de 4 semaines, 4 à 6 semaines en moyenne, au plus long, on aura une restitution intégrale de ses capacités, de ses fonctions.
Donc jamais de séquelles ?
En principe, pas de séquelles, en tout cas sur une commotion. Maintenant, c'est vrai que le problème peut être lié à la répétition. Cette phase pendant laquelle on est peut-être plus tout à fait soi-même, plus tout à fait à son niveau de fonctionnement normal, puisqu'il y a justement le fonctionnement du cerveau qui est altéré. Pendant cette phase-là, eh bien, on est fragilisé pour d'autres traumatismes, pour la répétition de traumatismes, parce que eh bien, justement, si le cerveau fonctionne moins, on a peut-être moins de réflexes, on a peut-être moins de réactivité. Du coup, on peut être sensible à être victime à nouveau d'un traumatisme qu'on n'aura pas su éviter faute des réflexes habituels. Et puis, il y a donc répétition. Et puis, c'est la répétition des problèmes de type commotion cérébrale qui, à terme, alors, peuvent encourir à des complications irrémédiables et irréversibles.
Est-ce que l'âge, l'hygiène de vie, par exemple, joue un rôle dans la façon dont on se remet d'une commotion cérébrale ?
L'hygiène de vie, en tous les cas, l'âge certainement aussi. Hein, c'est clair que plus on est jeune, meilleure est la récupération. Il y a une plasticité cérébrale, si on peut dire, qui est plus grande pour une personne jeune. Et puis, pour ce qui est de l'hygiène de vie, justement, alors le respect, entre guillemets, des symptômes, il faut les respecter. Dans ce sens-là, l'hygiène de vie, hein, si on a une hygiène de vie qui respecte les symptômes, donc qui nous conduise à se reposer le temps nécessaire, eh bien à ce moment-là, si on est respectueux, c'est naturellement favorable pour l'évolution.
Justement, pour se remettre d'une commotion, le remède, entre guillemets, miracle, c'est le repos.
C'est le repos, effectivement. Il n'y a aucun médicament ou autre méthode qui accélérerait la récupération. C'est le repos. Avec le temps, les mécanismes de fonctionnement du cerveau qui sont perturbés se remettent en place. Et bon, le temps neurologique peut être assez lent. Hein, donc c'est pas toujours en adéquation avec le rythme de vie actuel, et notamment ceux des sportifs, et plus particulièrement les sportifs d'élite.
Merci beaucoup, Dr Combremont, d'avoir participé à notre émission Cap Sport. Excellent week-end.
Merci, vous aussi.
Et le neurologue Pierre Combremont nous présentait donc les blessures au cerveau, en particulier les commotions. Certains chocs à la tête peuvent s'avérer mortels, on l'a évoqué. Le rugby français, par exemple, a été endeuillé à plusieurs reprises ces derniers temps. Il y a un petit mois, c'est un joueur amateur qui est décédé après un choc en match. Et quelques semaines avant, c'est un jeune espoir du Stade français qui est décédé après une fracture cervicale subie lors d'un plaquage. Pour évoquer l'aspect sécurité et intégrité des joueurs dans le rugby, on accueille en direct par téléphone Gilles Serret. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'entraîneur de l'équipe de Liga de rugby à Neuchâtel. Alors, les médias français sont montés aux barricades pour parler d'un sport toujours plus violent après ces drames qui ont touché le rugby français. C'est un sentiment que vous partagez ?
Écoutez, oui, plus ou moins. Il y a effectivement des cas qui ont été reportés, qui sont plus nombreux. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, particulièrement dans le rugby professionnel, à avoir des joueurs toujours plus costauds. Et je pense que ça participe beaucoup à ces problèmes-là, quoi.
On a pu entendre dire aussi dans certains médias que des joueurs se mettaient au rugby, avant tout chez les jeunes par exemple, pour donner des coups davantage que pour le jeu. Ça, c'est un phénomène que vous rencontrez aussi au niveau amateur en Suisse ?
Alors, je ne partage pas en tout cas cette analyse. J'ai pas l'impression, j'en ai personnellement pas rencontré dans ma carrière de joueur puis d'entraîneur. Des gens qui sont arrivés au rugby pour se battre, j'ai pas vu. Je pense que les joueurs cherchent autre chose quand ils veulent jouer au rugby. Je partage pas en tout cas.
Et si on en vient maintenant au fléau de la commotion cérébrale à proprement parler, est-ce que les joueurs qui commencent le rugby sont sensibilisés aux chocs qu'on peut recevoir, apprennent à encaisser peut-être certains chocs ?
Alors, si vous voulez, il y a plusieurs points. Alors, on a parlé du rugby pro. Alors, le rugby pro, c'est effectivement, on a vu une inflation des physiques, hein, où les joueurs ont pris à peu près 19 kilos de moyenne en presque 40 ans, quoi. Hein. Donc, c'est sûr que là, en plus, si vous voulez, un rugby, c'est un sport de combat. On est en face c'est collectif, mais c'est un sport de combat, donc il y a deux façons d'aller au combat, enfin d'aller marquer. Soit on rentre dans le tas, soit on évite, quoi. Et c'est toujours plus facile d'aller marquer quand il n'y a personne en face. Donc il y a le côté évitement du rugby. Ça, c'est ce qu'on essaye de cultiver, en tout cas moi, dans mes entraînements et dans ce que j'apprends. Donc déjà, il y a, je dirais, une philosophie de jeu. Dans le rugby professionnel, le professionnalisme donc a poussé à des physiques de plus en plus lourds, de plus en plus musclés, de plus en plus costauds, mais également avec des capacités de déplacement et d'endurance plus importantes. Donc en fait, les joueurs vont plus vite, vont plus fort, plus vite et plus loin. Malheureusement, le cerveau, le crâne, enfin les organes vitaux, eux, ils changent pas. Et je pense que ce qu'on voit dans le rugby professionnel, c'est quelque chose qui est réel, mais qui est assez spécifique à ça. Et puis, effectivement, il y a le côté sensationnel, où, voilà, quoi. C'est vrai qu'on montre plus volontiers des gens qui se rentrent dedans que des gens qui évitent les autres.
On a parlé d'adultes essentiellement pour l'instant. Vous qui avez aussi entraîné des juniors du côté de Neuchâtel, est-ce qu'on est plus attentif à éviter ce genre de choc quand on entraîne des jeunes?
Alors, je veux dire, le plaquage, le choc, il fait partie du rugby maintenant. Je pense que, enfin, je veux dire, c'est comme tout sport. Il y a des sports à risque. Je veux dire, le ski peut en être un aussi. Hein, je veux dire, mal préparé, on peut se faire très mal. Il y a tout un tas de choses. Mais en fait, je veux dire, la vraie réponse, c'est la formation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être très strict sur comment les gestes, apprendre les bons gestes, apprendre également les bons comportements. Le comportement est fondamental. Et puis ça, effectivement, ça se travaille dès le plus jeune âge, quoi. Et c'est là, à mon avis, une des voies de pour éviter ce genre de choses. Il y en a d'autres, mais...
Encore rapidement, Gilles Sered, après les drames qui ont touché le rugby français, la Ligue et la Fédération française de rugby ont entrepris des démarches. Elles ont abouti il y a peu, un peu plus d'un mois maintenant, avec cet objectif, rendre le rugby plus fluide et plus sûr. C'est ce qu'on nous dit. Trois solutions qui sont évoquées. Abaisser la ligne de plaquage en la faisant passer au niveau de la ceinture et non plus des épaules. Interdire le plaquage à deux joueurs. Et puis encore pénaliser fortement les plaquages tête contre tête. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces solutions, finalement, elles dénaturent un petit peu le sport? Votre sport?
Alors, moi, je ne sais pas si c'est de la nature le sport. Je pense que ce n'est pas la solution. Enfin, je veux dire, on peut plaquer plus bas, mais si on se baisse plus, on a plus de chances de se cogner la tête. Enfin, je veux dire, c'est la tête qui va être plus basse. Je veux dire, le plaquage à deux, bon, ben, enfin, je ne suis pas forcément convaincu. Moi, je pense que ça passe par la formation, d'une part, donc insister sur les gestes techniques, et puis d'autre part, les règles, alors mais pas celles-là, les règles qui encouragent la fluidité du jeu, mais c'est des règles qui peuvent être simplement, je veux dire, d'agrandir le terrain, peut-être, alors c'est difficile parce que les terrains sont déjà tous faits, ou alors un joueur de moins ou deux joueurs de moins. Il y a une chose aussi qui peut être intéressante, je veux dire, ça serait également de il y a une chose qu'on n'a pas évoquée là, mais c'est les remplaçants. Donc aujourd'hui, on peut rentrer 8 remplaçants. Mais faire rentrer un remplaçant à 20 minutes de la fin, lorsque les autres ont déjà une heure de jeu, ben voilà, ils sont fatigués, ils ont moins de réflexes, moins de choses, et on va faire rentrer des joueurs plus... Voilà, peut-être que ben il faut réduire la durée du match. Enfin, mon avis, c'est pas tant sur le ce que vous avez évoqué, les lignes de plaquage, plaquage à deux ou tête contre tête, mais c'est plus sur des règles plus générales.
Gilles Sered, entraîneur de l'équipe de Liga de rugby de Neuchâtel, merci d'avoir participé en direct à notre émission Cap Sport. Très bon week-end à vous.
Merci beaucoup. Bon week-end.
Et puis dans notre troisième partie, on va revenir sur Wendy Holdener qui s'est parée d'or aujourd'hui. La skieuse helvétique a conservé son titre de championne du monde du combiné. Elle a devancé de 3 petits centièmes la Slovaque Petra Vlova et de 45 la Norvégienne Ragnhild Mowinkel. C'est la deuxième médaille de la Suisse dans ces championnats du monde doré en Suède après le bronze de Corinne Souter en Super G. Tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial sur place en direct à Auray, Hugo da Custodia. Bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir à toutes et à tous. Vous arrivez au bon moment, j'ai envie de dire, parce que Wendy Holdener est sur la première marche du podium. Elle a reçu sa médaille, on s'apprête à entendre l'hymne suisse dans quelques instants.
Un hymne suisse qui va donc résonner pour peu finalement, ça s'est vraiment joué sur des détails aujourd'hui, Hugo.
Ouais, c'était vraiment magnifique comme performance. Depuis notre arrivée ici, on a vraiment senti Wendy Holdener très concentrée, mais aussi très à l'aise, tranquille dans sa manière d'aborder les courses. Elle était d'ailleurs fâchée après le Super G, pas contente d'elle-même, pourtant ce n'est pas sa discipline. Et puis aujourd'hui, elle ne s'est pas arrêtée pour nous parler en tête de manche, mais on l'a revue, on l'a sentie de nouveau très concentrée. Et pareil, aucune panique, aucun affolement. Elle a pu livrer la marchandise sur la piste en réalisant deux manches très solides. C'est ce qu'elle a en tout cas affirmé au micro de la Citrine dans l'air d'arrivée.
On l'a vue très souriante, comme libérée quelque part par ce titre mondial conservé. Est-ce que d'après vous, elle peut maintenant viser le titre en slalom? Ce serait finalement un exploit hein, quand on voit la mainmise de Michaela Schifrin actuellement.
Ouais, exactement, hein, c'est assez difficile à dire. Schifrin, c'est un modèle de régularité et puis elle est très forte aussi pour gérer sa carrière, ses moments forts. Elle aurait pu légitimement viser un résultat en combiné aujourd'hui ou en descente. Eh bien, l'Américaine a préféré faire l'impasse sur ces deux courses. On ne va pas s'en plaindre. Et puis après, il faudra aussi compter sur Petra Vlhová, deuxième aujourd'hui. Deuxième quart battu pour 3,6 centièmes par la magnifique Wendy Holdener.
Alors ce week-end, place aux épreuves rennes. Descente messieurs demain, descente dames dimanche. Quelle chance pour nos Suisses d'après vous?
Alors, il faut déjà voir s'il y a descente masculine demain. Il y a une petite rumeur qui dit que l'épreuve pourrait être annulée, mais selon le programme officiel, c'est toujours prévu. Et puis Beat Feig, c'est une valeur sûre. Il a joué placé lors du premier entraînement, un peu plus loin lors du deuxième. Le seul problème pour Beat Feig, il nous l'a dit, et les autres vrais spécialistes de descente, c'est que la course se fera sur un parcours raccourci, ce qui ouvre clairement le jeu au niveau des favoris sur une minute 20, une minute de course au lieu de 2 minutes. Ça sera plus compliqué, ça sera aussi plus dense au niveau des favoris. Et puis, concernant les dames, on peut imaginer que Corinne Sutter pourra s'immiscer aux avant-postes. L'inconnue, c'est Lara Good. C'était la moins bonne des Suissesses aujourd'hui, mais elle n'était pas en grande forme selon son entourage. À voir si la Tessinoise pourra récupérer un petit peu d'aplomb et puis être en forme pour dimanche.
Justement, on a l'impression que Corinne Sutter, qui plus est avec son titre, hein, apparaît comme notre atout majeur hein, chez les dames en tout cas.
Oui, on l'a encore aussi croisée, elle est super confiante, elle ne réalise pas vraiment encore cette médaille. On était avec des confrères de Ski Actu et elle disait qu'elle était très très contente de cette médaille. Et puis en plus, elle sera à Grand-Montana en sortie des mondiaux, elle pourra fêter ça avec les Suisses, mais elle se réjouit aussi de pouvoir, pourquoi pas, encore jouer les premières places dimanche lors de cette descente féminine. Et puis, n'oublions pas que Yasmine Flouri sera aussi au départ de cette descente féminine. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Wendy Holdener va se concentrer maintenant sur le slalom et le géant, ses disciplines de prédilection.
Peut-être encore un dernier mot rapide, Hugo, sur l'ambiance qui règne autour de ces joutes mondiales à Åre, en Suède. Est-ce qu'on peut dire que les Suédois savent faire la fête au Cirque Blanc?
Alors, ils savent accueillir, ils savent organiser. Pour l'ambiance, on peut dire que ça monte en puissance. Il faut dire que Åre, c'est pas la porte à côté. C'est à 1 heure d'Östersund, la plus grande ville des environs, à 6 heures de Stockholm. Et puis, je vous l'ai dit, au niveau de l'organisation, c'est plutôt carré. Les seuls changements de programme ont été liés aux caprices de la météo. Et au niveau de l'ambiance, on peut espérer que ça atteigne son maximum ce week-end et le week-end prochain. Surtout le prochain, d'ailleurs, car les Suédois auront plus de chances de briller dans les disciplines techniques.
On vous remercie d'avoir participé à notre émission Cap Sport. On vous souhaite encore bien du plaisir pour la suite de ces joutes mondiales. Et quant à nous, avant de rendez-vous sportif de votre week-end sur nos radios. Ça commence ce soir avec du hockey sur glace et le HCBN sur RGB. Il se déplace à 19h45 à Rapperswil en National League. Rebelote demain pour le HCB avec un derby alléchant sur RGB à 19h45. Bienne contre Berne. En Swiss League, pas de pause pour le HC La Chaux-de-Fonds qui accueille demain à 17h les Gateshead Lions à vivre en direct sur RTN. Nos clubs de basket seront également à l'honneur demain. Boncourt reçoit Fribourg à 17h30 sur RFJ alors qu'Union Neuchâtel accueille Genève à 18h sur RTN. Enfin dimanche, place au football pour la première de Stéphane Anchaud à la tête de Neuchâtel Xamax FCS. La formation neuchâteloise accueille Lucerne à 16h à la Maladière et ce sera à vivre sur RTN. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien.
Cap Sport.